Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, comme nous avons dit aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Augustin. C'est un des quatre grands docteurs de l'Église latine, avec Saint-Ambroise, Saint-Jérôme et Saint-Grégoire le Grand. Et après Saint-Paul et Sainte-Marie-Madeleine, il est peut-être le plus grand converti de l'histoire de l'Église. Et il est à l'origine de ce que nous appelons la règle de Saint-Augustin, qui est suivie par plusieurs congrégations, dont l'ordre dominicain, donc par nous-mêmes. Il est né en 354 en Afrique du Nord, à Tagaste, pas loin de Carthage. Son père, Patrice, était païen, de caractère assez violent, et intraitable même parfois, mais sa femme, donc la mère de Saint-Augustin, Sainte Monique, était une chrétienne douce et pieuse. Et elle a obtenu de son mari que Saint-Augustin puisse être catéchumène. Donc il n'était pas baptisé, on ne pouvait pas baptiser le petit bébé parce que comme il avait un père païen, il risquait de suivre son père. Donc en attendant, il a pu quand même suivre les cours de catéchisme avec les autres catéchumènes. Et à la maison, Sainte Monique, bien sûr, lui donnera une instruction chrétienne. Il dira plus tard que sa mère l'a fait boire l'amour de Jésus avec le lait. Très doué et intelligent, donc il ne tarde pas à faire de grands progrès dans ses études, mais aussi en même temps des progrès dans les vices. Donc il va suivre un peu son père justement, colérique, puis même un peu voleur. Mais il garde un amour pour la vérité et une ardeur pour l'étude. Il est passionné par les études. Vers la fin de son enfance, il va avoir une maladie grave où il a failli mourir. Et à ce moment-là, il va demander le baptême. Mais comme le mal s'est éloigné assez rapidement, Sainte Monique a voulu différer le baptême. Elle a dit, c'est encore trop risqué. Il peut retourner, comme il est encore un jeune homme, il va retourner à ses vices de la jeunesse. Et effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, la santé est revenue. Il retombe dans sa vie de plaisir, ses plaisirs défendus et du péché. Alors, sa fierté le retient quand même un peu dans les limites de la bienséance. Donc, il ne va pas aller à des excès honteux. Mais cette vie qui pourrait être presque vertueuse pour un païen n'était pas du tout à la hauteur de la pureté chrétienne. Alors, à 16 ans, il va partir pour Carthage pour continuer ses études, et ses plaisirs, justement. Donc, il va avoir des succès brillants, mais il va aussi se mettre en concubinage et il va avoir un fils illégitime qui s'appellera Adéoda. Peut-être c'est à partir de ce moment-là, en tout cas Saint-Augustin commence à sentir un vide, en fait, un vide. Il ne goûte plus les plaisirs du monde. Il a une sorte de nostalgie de Jésus, il garde un certain amour de Jésus dans son cœur. Donc, il va toujours chercher la vérité, il cherche un peu dans la philosophie païenne, en lisant des philosophes païens. Mais toujours cherchant Jésus et la vérité, il va se tourner vers les Écritures. Mais il n'est pas encore prêt à changer de vie. En fait, l'Église impose des règles et impose aussi à l'intelligence des doctrines qu'il faut croire. Et donc, même si Saint-Augustin va se tourner vers les Écritures, il ne se tourne pas vers l'Église. Il va se tourner vers la secte manichéenne, justement, qui eux aussi utilisaient les Écritures dans le Nouveau Testament. C'était souvent des gens distingués. Ils avaient des maîtres éloquents qui parlaient très bien, qui étaient très instruits, mais qui n'imposaient pas de doctrine précise. Chacun était libre, en fait, de croire à sa mesure, à leur doctrine de base, à savoir qu'il y a deux dieux, un dieu bon et un dieu mauvais. Donc, c'est déjà un pas vers Jésus-Christ, parce qu'il se retourne quand même vers les Écritures, il lit le Nouveau Testament. Mais cette doctrine du mauvais Dieu l'a rangé, parce qu'il pouvait toujours dire, si je n'arrive pas à pratiquer la vertu, c'est en fait, c'est la faute du mauvais Dieu. Il va même se faire apôtre, il va essayer de convertir ses amis, et même sa mère, Sainte Monique, au manichéisme. Évidemment, sa mère est inconsolable, elle prie, elle pleure dans les églises, et c'est à ce moment-là où elle rencontre un évêque qui lui donne cette prophétie consolante. Continuez à prier, le fils de tant de larmes ne peut pas périr. Donc elle continue à prier pour lui, et lui, il continue ses grands succès. Il est devenu maître en rhétorique, donc il va ouvrir une école d'éloquence, d'abord à Tagaste, puis à Carthage, puis il va à Rome, puis il finit à Milan, où il obtient une chaire d'enseignement public. Alors Milan, à cette époque, c'est une ville aussi importante que Rome, presque. Et donc, il éblouit le monde avec ses grands succès, ses discours, malgré son accent africain qui n'arrivait jamais à se défaire, dont il n'arrivait jamais à se défaire. Et là, c'est Sainte Monique qui va le rejoindre. En fait, son mari, Patrice, donc le papa de Saint-Augustin, est mort entre-temps. Elle a réussi, par sa douceur, à convertir son mari, qui va finir par demander le baptême avant de mourir. Donc après, elle rejoint Saint-Augustin en Afrique. Et là, elle a une première victoire. Elle obtient de la concubine de Saint-Augustin de le quitter, de retourner en Afrique et à se consacrer aux œuvres pieuses. Donc maintenant, Saint-Augustin est libre. Bon, il ne quitte pas sa vie de plaisir défendue pour autant. Donc, même son ami, il avait une amie avec lui parce que quand il se déplaçait, quand il ouvrait ses écoles, il était toujours entouré d'un groupe d'amis. Et son meilleur ami, Alip, commençait à cheminer lui aussi vers le christianisme. Et il encourageait Saint-Augustin à quitter les plaisirs du monde et se consacrer à la contemplation, etc. Mais il n'était pas encore prêt. Mais il rencontre quand même, grâce à Sainte Monique, Saint Ambroise, qui était l'évêque de Milan à cette époque-là, qui lui aussi était un grand orateur, et qui gagnait le respect et la confiance de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin va se remettre à la lecture de Saint-Paul. Alors là, un jour, il était avec Alip, son ami, et ils reçoivent la visite d'un chrétien qui s'appelait Pontinianus, qui est venu dans la maison. Et là, il voit, donc ce Pontinianus, voit sur la table un livre de Saint-Paul. Et il félicite Saint-Augustin du fait qu'il lit Saint-Paul. Il dit, c'est très bien. Et il commence à leur raconter la vie des pères du désert. C'est tout récemment, ils avaient des exemples des grands ascètes qui vivaient dans le désert, comme Saint-Antoine, et d'autres ermites qui pratiquaient des pénitences pénibles, des jeûnes, etc., des veillées de la nuit, dans le désert, et qui devenaient des grands saints qui faisaient des miracles. Il racontait tout ça à Saint-Augustin, et Saint-Augustin s'écrit, « Les simples gens sans instruction gagnent le ciel, et nous, avec notre science, nous nous traînons dans la boue. » Et donc il sort de la maison en pleurant, il va dans le jardin, la tête dans les mains, il pleure. Et là, il entend la voix d'un enfant qui semblait venir de la maison voisine. Et cette voix d'enfant qui disait « Prends et lis, prends et lis, prends et lis. » En chantant un peu dans cette cantilène, « Prends et lis. » Donc en fait, il revient dans la maison, il retourne dans la maison, il prend le livre de Saint Paul qu'il avait, et il lit, il ouvre et au hasard, il lit le premier passage qui tombe sous les yeux et il tombe sur cette, ce passage. Ne vivez pas dans les festins et dans l'ivresse, ni dans l'impureté et le libertinage, ni dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, en lisant ces paroles, tout devenait clair. Son âme était remplie de lumière et d'une paix qu'il ne pouvait pas décrire, tellement il était en paix. Et c'était décidé. En fait, il voulait se faire baptiser. Et peu après, à 33 ans, lui, avec son ami Alip et son fils Adéoda, il va se faire baptiser. C'est Saint Ambroise qui va le baptiser. Mais ce baptême va être suivi de deux deuils. Il va perdre d'abord son fils. En fait, tout peu après le baptême, son fils Adéoda meurt. Mais il a au moins la consolation de savoir qu'il est dans l'Église. Et puis, il avait le projet de retourner en Afrique pour mener la vie religieuse avec ses amis. Et avant de s'embarquer à Ostie, Sainte Monique meurt aussi. Donc, il retourne en Afrique avec ses amis, mais sans sa mère et sans son fils. Il mène la vie religieuse avec les autres. Et à 37 ans, Valerius, l'évêque d'Hippone, va l'ordonner prêtre. Et donc là, il va continuer sa vie en communauté et puis même donner des conseils et aider sa sœur, sa propre sœur, à fonder un monastère aussi pour les filles. Il y a 41 ans, Valerius il s'approche de la mort. Il choisit Saint Augustin comme successeur de l'évêque d'Hippone et il va le consacrer évêque. Et là s'ouvre devant lui une période de 35 ans comme évêque d'Hippone, où il va partager sa vie entre la direction des monastères, des communautés religieuses, l'instruction des fidèles, et puis la défense de l'Église contre les hérétiques. D'abord, il continue à diriger des communautés religieuses, en commençant par lui-même. En fait, en étant évêque, il continue sa vie religieuse. Il est entouré de prêtres et il prie ensemble, il vit ensemble, il met tout en commun. Et il mène la vie apostolique. C'est Saint Augustin qui dit qu'il voulait venir la vie des apôtres. C'est d'abord la pauvreté. En fait, les apôtres mettaient tout en commun. Ils partageaient entre eux et puis ils passaient la journée, bon, passer la nuit surtout en contemplation de la vérité, et puis il passait le jour à aller prêcher la vérité autour d'eux. C'est ce qu'il faisait avec ses prêtres. Et il continuait à donner ses conseils à sa sœur et à d'autres qui avaient des monastères. Et ses conseils, ses lettres, sont réunis maintenant dans ce qu'on appelle la règle de Saint-Augustin. Et c'est la règle qui est suivie par plusieurs congrégations et des ordres religieux comme l'ordre dominicain. Et puis il instruisait les fidèles, donc c'était la plus grosse part de sa journée. Les offices liturgiques dans la cathédrale, ses sermons et ses instructions, les conseils, il jugeait des différends aussi entre les chrétiens. Ses commentaires sur la Bible. Il écrivait beaucoup la nuit, il écrivait des œuvres, de très nombreux ouvrages. La Cité de Dieu, un très grand ouvrage, où il raconte l'histoire du monde comme la lutte entre le bien et le mal. Il a écrit ses confessions, c'est-à-dire sa vie en fait, où il raconte sa vie de péché et puis sa conversion. Et puis il défend l'Église contre les hérétiques, donc bien sûr contre les manichéens, dont il faisait partie avant. Il avait réussi même à convertir un chef des manichéens, Félix. Il combat les pélagiens qui niaient la nécessité de la grâce. Les donatistes, aussi, c'est une secte qui mettait l'Afrique à feu et à sang. Il croyait que les sacrements des pécheurs n'étaient pas valides, donc il disait que l'Église se réduisait à un tout petit groupe, en fait eux, et eux seuls. Et donc, en fait, ils faisaient la guerre contre les autres. Ils allaient brûler les villages, massacrer les gens, etc. Il a réussi, par sa douceur, à les convertir, et ils sont rentrés dans l'Église en masse. Et puis, vers la fin de sa vie, il va écrire ses rétractations. Donc, en fait, ses rétractations, c'est un livre où il corrige ses erreurs. Il avait toujours ce souci de la vérité. Il a passé sa vie à chercher la vérité, et il voulait faire un livre pour dire, pour préciser que dans tel livre, il a peut-être mal dit quelque chose, il fallait mieux dire d'une autre façon, etc. Il corrige pour être toujours dans la vérité. Et puis, à l'âge de 76 ans, en 430, il va mourir. En fait, c'est au moment où l'Afrique est envahie par les barbares sous leur chef Genséric, le terrible Genséric, qui était un Arien, qui faisait le siège à la ville d'Hippone. Et c'est pendant ce siège, le 28 août, que Saint-Augustin meurt. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons faire, en fait, pour honorer ce grand saint? Alors, je vous propose trois choses. En fait, il y a une chose que tout le monde peut faire, une chose que beaucoup d'entre vous pouvez faire, et puis une chose qui n'est réservée qu'à quelques-uns. Alors, Saint-Augustin, il a brillé par son amour pour la vérité. Donc, on peut honorer tous, nous tous pouvons honorer Saint-Augustin en cherchant nous-mêmes la vérité. Alors, nous sommes déjà dans l'Église catholique, donc c'est déjà ça de fait. Donc mais même en étant catholique, il y a toujours on peut toujours être plus ou moins dans l'erreur. Et il faut avoir cet amour de la vérité et de chercher la vérité. Et puis parfois aussi avoir l'humilité de faire comme Saint-Augustin, ses rétractations. Donc en fait, de corriger les erreurs si on avait eu tort, de l'admettre. Et donc dans nos conversations, de chercher la vérité et non pas uniquement de défendre nos opinions. Puis une deuxième chose, ça c'est quelque chose que beaucoup peuvent faire, c'est de lire les ouvrages de Saint-Augustin. Ce sont des joyaux de la littérature chrétienne qui ont formé les centaines de générations de chrétiens. Sa Cité de Dieu, qui est magnifique, ses confessions, voilà, et puis ses commentaires sur la Bible. Ses commentaires sur l'Évangile de Saint Jean sont très riches, très profonds, et très abordables en même temps. Il faut savoir que c'était des commentaires qui faisaient au peuple. C'est des sermons, en fait, au peuple qui venait à la messe, comme ça. C'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être un érudit pour les comprendre. Et puis quelque chose que certains d'entre vous pouvez faire, c'est entrer au couvent de Léo Bonhomme comme frère prêcheur pour vivre la vie apostolique selon la règle de Saint-Augustin. Donc de vivre cette vie de contemplation et de vérité et partager la vérité avec d'autres. Ou bien pour les filles, se faire dominicaine, c'est la même règle. Cela honore Saint-Augustin, ça honore Dieu et c'est utile au prochain. Donc s'il y a qui sont appelés à ça, prions aujourd'hui pour qu'ils aient la grâce d'avoir le courage, comme Saint-Augustin, de tout quitter pour la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.